à Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui. Eric Manirakiza avec vous. D'abord les titres de cette édition de ce mardi 6 août 2019. Au Niger, deux factions du Modem choisissent Sama Amadou comme candidat à la présidentielle de 2021. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel rejette le recours de l'opposition contre la nouvelle commission électorale indépendante. Et Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président congolais, est accusé par l'ONG Global Witness d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars. L'écrivaine américaine Toni Morrison, la première femme noire à obtenir le Nobel de la littérature, est décédée. Également, la minute éco et les sports dans 10 minutes après le journal. Au Mozambique, la RENAMO, ancienne rébellion devenue le principal parti d'opposition, a signé aujourd'hui un traité de paix définitif avec le gouvernement de Maputo, 27 ans après la fin de la première guerre civile. Le président Philippe Nyusi et le chef de la RENAMO, Osufo Momade, ont signé le document sur la place de la paix à Maputo en présence des présidents sud-africains Cyril Ramaphosa et rwandais Paul Kagame. L'opposant nigérien en exil, Ama Amadou, a été désigné candidat à l'élection présidentielle de 2021 par les deux factions du Modem qui ont tenu des congrès séparés dimanche à Niamey et à Dosso, dans le sud-ouest du pays. Nathalie Barge.
Ama Amadou a été désigné candidat à la présidentielle par le Bureau politique national du Modem à Niamey, soutenu par les députés de ce parti d'opposition. Lors du congrès de Dosso, les partisans d'Oumarou Noma, déchus de la présidence intérimaire du parti, ont également désigné Ama Amadou. L'ancien Premier ministre a accusé M. Noma d'entacher sa légitimité et de semer la division et le chaos au sein du parti. « Il n'y a pas de problème sans solution », a déclaré de son côté Oumarou Noma. En juillet, un juge avait déclaré de nul effet la décision de Ama Amadou évinçant M. Noma et constaté la déchéance de M. Amadou de la présidence du Modem. L'opposant nigérien vit en exil depuis sa condamnation à un an de prison en mars 2017 pour une affaire de trafic international de bébés qu'il qualifie de complot pour l'écarter de la scène politique.
Voilà, ce sont les deux factions du Modem qui ont désigné Ama Amadou candidat à l'élection présidentielle de 2021 au Niger. En Guinée, un hélicoptère militaire de type écureuil avec deux personnes à bord s'est abîmé en mer près de Conakry. Des recherches menées notamment par la marine guinéenne en cours pour retrouver l'épave et ses deux occupants, un commandant de l'armée, instructeur et un élève pilote. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a rejeté hier le recours formé par l'opposition contre la loi réformant la commission électorale indépendante adoptée le 30 juillet par l'Assemblée nationale. Les précisions de Abdelrahman Dia.
Le Conseil constitutionnel a jugé la requête irrecevable en la forme car mal étayée. Les trois groupes parlementaires PDCI, RDA, Vox Populi et Rassemblement avaient annoncé hier avoir saisi le Conseil, estimant que la réforme de la Commission ne garantissait pas l'indépendance et l'impartialité de cet organe chargé d'organiser les élections, alors que la présidentielle d'octobre 2020 cristallise le débat politique ivoirien. Cette loi ne respecte pas l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, avait déclaré Alain Lobognon, proche de Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, qualifiant l'adoption du texte de passage en force. La Cour africaine des droits de l'homme avait jugé en 2016 que la CEI n'était pas indépendante, enjoignant au gouvernement ivoirien de la réformer. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, assure que le texte apporte un meilleur équilibre dans la composition des organes de la Commission centrale, du Bureau et des commissions locales. La nouvelle CEI doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant.
La Côte d'Ivoire va recevoir une aide américaine de 525 millions de dollars sur 5 ans pour son développement, ont annoncé hier soir les autorités ivoiriennes et américaines à marge du forum AGOA États-Unis-Afrique tenu à Abidjan. Plus de 2000 personnalités, dont des responsables américains et africains de 39 pays, ont participé à cet événement pour renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Nous y reviendrons dans la partie magazine. L'ONG britannique Global Witness, dans un rapport rendu public aujourd'hui, a accusé Denis Christel Sassou Nguesso, fils cadet du président congolais, d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA, des fonds publics en 2014. Des précisions avec Irénée et Herman Ungbo.
Selon des documents étudiés par Global Witness, le véritable propriétaire du réseau chypriote d'entreprises qui a reçu les 50 millions de dollars du trésor congolais était Denis Christel Sassou Nguesso. Le rapport de Global Witness indique que les fonds auraient servi à mettre en place une structure d'entreprise complexe et opaque dans plusieurs pays. Six différents pays européens, les îles Vierges, Britanniques et l'État américain du Delaware ont été impliqués dans cette manœuvre, renchérit le document. Il cache très bien ces choses, d'après Mariana Abreu de Global Witness. Une autre enquête de l'ONG publiée en avril révèle que sa sœur Claudia Sassou Nguesso, responsable de la communication à la présidence du Congo, aurait reçu près de 20 millions de dollars, soit environ 12 milliards de francs CFA de fonds publics, selon l'ONG, pour l'achat d'un appartement de luxe à New York. L'homme d'affaires portugais José Viega se trouve au cœur de la stratégie. Pour le moment, il n'y a aucune réaction officielle des autorités de Brazzaville, ni de celle des personnes accusées dans ce rapport.
Le Burundi est confronté à une flambée de paludisme atteignant des proportions épidémiques qui a fait plus de 1800 victimes depuis le début de l'année, selon l'ONU. Du 1er janvier au 21 juillet 2019, l'OCHA a recensé un total cumulé de 5 738 661 cas sur une population dont 11,5 millions d'habitants que compte le Burundi. En Algérie, environ 500 étudiants ont manifesté aujourd'hui pour la 24e semaine d'affilée à Alger. Aucun incident n'a été enregistré. Au Soudan, l'accord de gouvernance sera signé de manière solennelle le 17 août. Après plus de 7 mois de manifestations, l'accord proclame une série de droits et libertés pour les citoyens qui devront à l'avenir être protégés de toute arrestation arbitraire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
De nombreux habitants de la ville texane, à majorité hispanique d'El Paso, endeuillés par une fusillade à l'idéologie raciste, s'opposent à l'avenue annoncée mercredi du président américain Donald Trump, dont la détermination à combattre l'extrémisme est mise en doute. La conseillère du président Kellyanne Conway dénonce de son côté la politisation des fusillades du week-end par l'opposition et assure que Donald Trump s'emploie à rassembler le pays. Le président Donald Trump veut toujours un accord commercial avec la Chine, mais à condition que ce soit une bonne entente, selon son conseiller économique. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Il souhaite continuer les négociations et conclure un accord, mais il faut que ce soit un bon accord pour les États-Unis, a déclaré Larry Kudlow, conseiller économique du président américain. Il a confirmé la tenue des pourparlers prévus en septembre à Washington. Hier, la Chine a décidé de laisser filer sa devise à son plus bas niveau en 11 ans. Washington a accusé Pékin de manipuler sa monnaie, disant que c'est en réaction à la décision du président américain d'imposer à partir du 1er septembre 10% de tarifs supplémentaires sur les 300 milliards de dollars de produits chinois. Larry Kudlow a souligné que si les Chinois font preuve de bonne volonté dans les négociations, le président pourrait revenir sur sa décision, prévenant toutefois qu'au cas contraire, les taxes pourraient être durcies. Les négociations entre les deux pays, entre-temps interrompues, ont repris à Shanghai la semaine dernière, mais le président Trump accuse les Chinois de ne pas tenir leurs paroles, en particulier leur promesse d'acheter des produits agricoles américains.
Dossier nucléaire iranien, Téhéran est en faveur de négociations et si les États-Unis veulent vraiment discuter, avant toute chose, ils doivent lever l'ensemble des sanctions, a déclaré Hassan Rouhani à la télévision, sans préciser sur quoi porteraient ces négociations. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a dit la veille avoir refusé une invitation à rencontrer le président Donald Trump. Le Haut Commissariat aux réfugiés s'est dit inquiet après l'adoption par le Parlement italien d'une loi plus répressive contre les ONG qui récupèrent des migrants en Méditerranée. La Commission européenne a pour sa part annoncé son intention d'analyser la nouvelle législation italienne afin de vérifier sa compatibilité avec le droit européen. Frontex, l'agence chargée de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, se défend de tolérer des maltraitances sur les migrants, soulignant qu'elle n'a pas de droit de regard sur les policiers locaux. Dans une enquête conjointe, le site d'investigation allemand et d'autres médias reprochent à l'agence de cautionner des actes commis par des gardes frontières bulgares, hongrois et grecs. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
La production céréalière au Maroc pourrait baisser pour la campagne 2018-2019 à cause de la sécheresse qui a sévi ces derniers mois. La production définitive des céréales principales est estimée à 52 millions de quintaux, soit une baisse de 30% en comparaison avec la moyenne annuelle habituelle de 75 millions de quintaux. Du fait de cette régression, les autorités anticipent déjà un ralentissement de la croissance à 2,7% cette année contre 3% l'an dernier, vu que l'agriculture reste le premier contributeur au PIB avec 14% devant le tourisme et l'industrie. La plus grande banque ougandaise, Stanbic, a enregistré une hausse de 37,5% de son bénéfice avant impôt pour le premier semestre de cette année grâce à une forte augmentation de la croissance du crédit. Le bénéfice avant impôt a atteint 50 millions de dollars et les intérêts et produits assimilés ont augmenté de 23,4%. Selon la Banque centrale d'Ouganda, l'économie du pays a progressé de 6,1% en juin grâce à une politique monétaire accommodante qui a stimulé la consommation des ménages.
Et sans tarder, nous passons à la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec du cyclisme. Mathias Sorgho remporte l'étape 3 du Tour international du Congo.
Oui, le Burkinabé a pédalé pendant 4h49 minutes, soit une vitesse moyenne de 37 km/h, pour avaler les 180 km entre Kolwezi et Likasi. Le Rwandais Jean-Robert Rouberoua garde toujours le maillot jaune à l'issue de cette étape. Jimmy Moindo, qui a fini à la quatrième place, reste le meilleur Congolais jusque-là. La quatrième étape se court demain entre Likasi et Lubumbashi, longue de 120 km. D'après Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, cette septième édition a été rallongée de 2 jours et prendra fin vendredi dans la capitale congolaise. Un réaménagement qui fait suite à la réinsertion de l'étape du Grand Bandundu, comprise entre Batshongo et Kingé, longue de 108 km.
Et en football, Vahid, à la tête de la sélection marocaine, ce n'est plus qu'une question de jour, n'est-ce pas?
Selon le site marocain le 360.ma, l'entraîneur bosniaque Vahid Halilhodžić va succéder au français Hervé Renard à la tête des Lions de l'Atlas. Le journal en ligne indique qu'une première réunion va se faire entre la fédération marocaine et l'ancien entraîneur de Nantes. Le nouveau sélectionneur va être officiellement présenté à la presse après la fête de Dabaski. Ancien sélectionneur de l'Algérie et de la Côte d'Ivoire, Vahid Halilhodžić est connu pour sa rigueur et son amour pour le travail.
Et Harry Maguire devient le défenseur le plus cher de l'histoire.
Le défenseur international anglais de Leicester s'est engagé avec Manchester United pour les 6 prochaines saisons. Selon les médias britanniques, le joueur de 26 ans est devenu le défenseur le plus cher du monde avec un montant de transfert de 87 millions d'euros. L'arrivée de Maguire à Manchester United efface des tablettes les records des Néerlandais Matthijs de Ligt, de l'Ajax Amsterdam à la Juventus Turin pour 75 millions d'euros et Virgil van Dijk de Southampton à Liverpool pour 75 millions d'euros également. Débarqué en 2017 de Hull City, Harry Maguire compte 69 matchs de Premier League sous le maillot de Leicester.
Et enfin, Wayne Rooney quitte Washington pour Derby.
La légende anglaise s'est engagée avec Derby County comme entraîneur-joueur à partir de janvier 2020, selon le club de deuxième division anglaise. Wayne Rooney, qui évolue actuellement ici au DC United, rejoindra les Rams pour 18 mois à l'issue de la saison de MLS. Il fera partie du staff de l'actuel entraîneur du club, Philippe Cocu, en place depuis le départ de Frank Lampard à Chelsea. Rooney sera chargé du développement des jeunes joueurs issus du centre de formation qui progressent vers l'équipe première. À 33 ans, il était initialement sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2021 de MLS.
Et c'est la fin des sports. Merci à Kouba. À demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'est fort de la décision de justice qu'il a demandé et qui...
De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour aborder les dossiers du jour. Au Niger, l'opposant Amadou est plébiscité par son parti pour la présidentielle de 2021. Un plébiscite malgré sa déchéance prononcée la semaine dernière par un juge. Aussi, ce plébiscite vient de deux ailes du parti qui ont chacune tenu le week-end dernier un congrès au nom de la même formation politique. Précision dans ce reportage de Abdelrazak Idrissa.
C'est fort de la décision de justice qu'il a demandé et qui déchoit Hama Amadou de la présidence du parti que Omar Numa, le président par intérim du mouvement démocratique nigérien, a organisé à Dosso un congrès ordinaire du parti. À la fin, il se fait élire nouveau président du parti et déclare apporter tout son soutien à Hama Amadou en vue de la présidentielle de 2021.
Je réaffirme ici, devant vous tous, je me suis battu pour Hama Amadou. Je me bats encore pour Hama Amadou. Je me battrai pour lui, mais dans le respect de la loi. Parce qu'avant tout, la démocratie, c'est le respect de la loi, dans le respect des textes. Ce n'est pas que je suis contre Hama. Non, j'ai donné ma vie pour lui. Après ça, j'invite l'ensemble des militantes et des militants pour qu'on se retrouve et qu'on essaye de voir comment il faut ramener la cohésion.
Ce soutien, Hama Amadou dit ne pas le comprendre lorsqu'il s'adressait depuis son exil aux autres militants du parti, plus nombreux, qui se sont eux retrouvés à Niamey pour le congrès le même jour que celui de Dosso.
Étrange soutien qui a pour finalité à l'évidence de confier mon destin d'homme politique à celui qui a cherché et obtenu ma déchéance à la tête du parti. Tous mes efforts pour comprendre la logique et la pertinence de ce soutien hors norme butent contre la raison et le bon sens. C'est donc comme si on rassurait la vache en lui disant qu'on la conduit chez le boucher pour son bien. Pourtant, l'adversité elle-même n'a pas encore réussi à me transformer en bête d'abattoir. Aussi pour moi, il n'y a de congrès que celui du lieu choisi démocratiquement par les bases représentatives du parti, c'est-à-dire celle organisée par le Bureau politique national, le seul organe légitime de direction du parti entre deux congrès.
Les organisateurs du congrès de Niamey, eux, n'ont pas formellement désigné un nouveau président pour le parti. Eux aussi annoncent que leur candidat à la présidentielle de 2021 reste Hama Amadou. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le 18e forum AGOA s'est tenu à Abidjan. Plus de 2000 personnalités, dont des responsables politiques et économiques américains et africains de 39 pays, ont participé à cet événement pour renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Que peut-on retenir de ce dernier forum à Goa? Idriss Fall, adjoint à Abidjan, Gérard Amangwa, directeur général adjoint de l'APEC-SI, l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire.
C'est un tournant pour les relations futures entre les États-Unis et l'Afrique au sud du Sahara, puisque le paradigme commence à se décliner. Nous avons déjà la zone de libre-échange, donc l'approche continentale du marché africain. Et puis il y a également le fait que l'Amérique est en train de changer sa vision du partenariat avec la plupart des pays et des régions dans le monde. L'Amérique veut maintenant aller vers le bilatéral. Donc, ils sont conscients du fait qu'effectivement, l'Afrique commence à s'intégrer du point de vue continental, mais ils préfèrent toujours maintenir leur cap, c'est-à-dire rester directement avec les pays. Donc, nous sommes à un tournant important.
La Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle profite bien de l'AGOA et comment?
Elle dit que la Côte d'Ivoire profite de l'AGOA, c'est trop dire. On aurait pu profiter énormément, ça c'est sûr, puisque vous savez, Quand on fait l'historique de l'évolution du statut d'éligibilité de notre pays depuis 2000, cette évolution est s'entend de ce que nous sommes entrés en 2002, donc on a perdu 2 ans. Nous sommes sortis en 2005, on a perdu 6 ans. Donc maintenant, nous sommes dans une période où le paradigme a complètement changé et où on se rend compte qu'il faut aller à l'industrialisation pour créer une base industrielle très large afin d'offrir des produits en quantité, mais également en qualité. Donc, on en a profité, si vous voulez, parce qu'on a eu quand même à peu près 200 millions de dollars de 2002 à 2004, davantage préférentiels. Mais après, bon, ça a baissé. Nous sommes à 50 et 76 millions de dollars d'avantages préférentiels. On en a profité, mais on peut faire mieux.
En 2017, les échanges entre les États-Unis et l'Afrique, c'était de l'ordre de 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, comment expliquer cette baisse?
Les Américains investissent dans certains secteurs clés. Hein. Il y a les mines, le pétrole et l'énergie. Ce sont des investissements productifs, mais à usage interne. Ce ne sont pas des investissements pour aller vers l'exportation. Nous souhaitons, pour un partenariat gagnant-gagnant, que ces investissements au-dessus des secteurs porteurs pour nous, notamment l'agro-industrie et puis l'agroalimentaire. C'est pour cela qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons privilégié certains secteurs prioritaires dans le cadre de la stratégie nationale d'exportation. Mais sur le marché américain, nous avons également des secteurs prioritaires, notamment la noix de cajou, le manioc qui s'est dérivé, le caoutchouc, puis le coton. Bien sûr, il faut ajouter le miel aussi.
Gérard Amangwa, directeur général adjoint de l'APEX-SI, l'association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire.
Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h CI sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
De nombreux jeunes Africains se lancent dans l'économie numérique malgré le manque d'accès aux réseaux sociaux et à l'informatique. Le directeur de e-Plus et d'un incubateur de Builders au Tchad, Israël Jonabaye, a été invité à Washington pour partager son expérience avec les jeunes leaders africains dans le cadre du programme IALI 2019. Nathalie Barge lui a demandé si ses activités ont souffert de la suspension des réseaux sociaux dans son pays pendant plus d'un an, qui a été levée le mois dernier.
Très négativement, parce que nous sommes dans une économie numérique. Et donc, en tant qu'économiste, si je dois évaluer le manque à gagner, c'est énorme, c'est considérable. La bonne nouvelle, les restrictions viennent juste d'être levées. Et il faut aller plus loin. Il faut encore rendre l'accessibilité à l'Internet à un coût qui nous permet, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir exercer. Et c'est extrêmement cher. Le gouvernement doit essayer de créer des conditions pour que les opérateurs économiques qui fournissent de l'Internet puissent le fournir à un coût intéressant. Et pour moi, c'est de trouver un consensus. C'est du partenariat public-privé. Moi, quand je voyage, c'est là où j'évacue beaucoup de tâches parce que si je rentre au pays, l'Internet ne me permet pas d'être productif.
Qu'est-ce que ça pourrait apporter au pays si les jeunes se lancent vraiment dans les TIC, comme on dit, les technologies de l'information, de la communication? C'est une belle valeur ajoutée, ça, non?
Tout à fait. Déjà, je prends simplement le côté de la formation. Ça permettra aux jeunes de s'auto-former, d'avoir accès à la même connaissance que les jeunes américains, les jeunes asiatiques ont. Ça réduit les barrières, ça donne accès à la connaissance. Le capital humain n'est pas à négliger dans le développement d'un pays. Et qu'à cela ne tienne, ça permet aussi de faire des affaires. Les entreprises tchadiennes peuvent vendre sur des plateformes mondiales. Nous, les entrepreneurs, nous avons des concurrents mondiaux. Nos concurrents sont à Singapour, partout dans le monde, en Chine. Donc, l'Internet nous permet de pouvoir aussi anticiper sur toutes ces questions.
Vous-même, dans le cadre de vos activités, vous proposez des formations spécifiques intéressantes?
Tout à fait. Et là, actuellement même, nous sommes en train de travailler sur un projet en partenariat avec une ONG hollandaise, le projet dénommé Job Booster. Nous allons aussi promouvoir l'auto-emploi, mais la problématique des métiers renvoie même à notre système éducatif qu'il faut complètement remettre en cause. Parce que le système éducatif actuel, ça génère des chômeurs. Je suis produit de ce système éducatif, mais il m'a fallu que je me remette en cause et que je puisse aller apprendre comment trouver des solutions aux problèmes pour être entrepreneur aujourd'hui. Nous avons des formations orientées métiers, selon même les enjeux de notre ère. Nous offrons des formations type dans le domaine du numérique. Nous offrons aussi des formations pratiques pour permettre à toute personne qui intègre nos programmes de formation puisse être outillée pour le permettre d'entreprendre ou encore d'obtenir un emploi.
Israël Djounabaye, entrepreneur et formateur en entrepreneuriat au Tchad. Vous pouvez retrouver ce mardi dans Le Monde au Féminin à 19h05, temps universel sur VOA Afrique.
Mandia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, plus de 30 personnes ont été tuées le week-end dernier dans deux fusillades au Texas et dans l'Ohio. Ces drames ont relancé le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Les démocrates ont renouvelé leur appel à un renforcement de la législation sur les armes à feu, avec notamment une meilleure vérification des antécédents des acheteurs d'armes. Mais le président et les républicains mettent en cause les jeux vidéo et la propagation des idéologies de la haine via Internet. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
L'écrivaine américaine Toni Morrison a exploré toute l'histoire des Noirs américains depuis leur mise en esclavage jusqu'à leur émancipation dans la société américaine actuelle. Prix Nobel de littérature en 1993, elle est décédée lundi à l'âge de 88 ans. Pour en parler, Eki Abadou a joint à Washington Marlene Sefocle, professeure à Howard University.
C'est une grande perte pour le monde littéraire parce qu'on s'imagine une Toni Morrison mais vivant à l'infini. Elle avait encore énormément à nous dire, à nous décrire. En fait, sa source d'inspiration, c'était surtout son père qui était un grand conteur qui l'a énormément inspiré tout au long de sa vie. Elle a été publicitée dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'elle arrivait à toucher, à avoir énormément d'empathie pour ses personnages. On se souvient de Beloved, par exemple. Elle arrivait à toucher au fond des situations extrêmement douloureuses, telles que, par exemple, l'infanticide de ce personnage qui préfère tuer son enfant plutôt que de voir son enfant réduit à l'esclavage. Ce sont des questions qui n'avaient jusqu'alors pas été soulevées, qui n'avaient pas été explorées, et a eu le courage de l'explorer en disant, et en le disant très haut et fort, qu'elle écrivait surtout pour un public noir. Pourquoi ? Parce que c'était les peines et les joies ressenties venaient justement de sa communauté, du tréfond de sa personne, et c'est la raison pour laquelle justement elle voulait partager tout cela avec un public surtout noir américain. Il faut le dire.
Et elle disait « Je suis bien décidée à neutraliser le racisme mesquin ». Est-ce que vous pensez qu'elle a quand même réussi sa mission ?
On ne peut pas mettre sur les épaules d'un seul auteur la réussite d'une mission aussi vaste, mais elle est arrivée à toucher beaucoup de personnes, justement parce que ses récits, ses romans ont été portés à l'écran. Donc on peut parler d'une mission qui a été vraiment universalisée par le biais des films.
On a aussi l'impression qu'un public qui n'est pas forcément noir s'intéresse à ses écrits.
Évidemment, elle est devenue, enfin, sa voix est devenue une voix universelle. Elle a non seulement touché un public noir américain, mais aussi un public blanc américain, un public mondial. Elle a aussi enseigné, il ne faut pas oublier Toni Morrison, l'enseignante. Elle a enseigné à Stokely Carmichael, par exemple, à Howard University. Il ne faut pas oublier son passage à Howard University, qui était vraiment très important. Moi, sa mort m'a d'autant plus touchée que j'occupe le bureau où elle était auparavant, quand elle était à Howard University. Et donc, son message, c'était un message qui était un message d'empathie surtout. Et donc, quand un auteur a un message d'empathie, ça touche toutes les classes sociales, ça touche tout le monde.
Voilà, Marlene Sefocle, professeure à Howard University. Ainsi va le monde d'aujourd'hui. Merci à Michel Joseph pour la mise en onde. Sidrak Franklin à la console, Eric Manirakis a été avec vous. Je vous souhaite de passer une agréable soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique.
Afrique, les infos.